le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Le mois de mars 2007, selon Guillaume Fredette. Avant tout, une mise au point. J'ai bien hésité à choisir un angle qui conviendrait à ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais présenter. Finalement, je vais me laisser aller à peut-être certains fantasmes et suivre un plan sans trop savoir où il va me mener. D'abord, disons que ce mois de mars, celui qui m'a été dévolu, fut particulièrement riche. Peut-être un peu trop. Un événement au début de ce mois a eu un impact très important. C'est la mort de Jean Baudrillard. J'ai ici devant moi la première page du journal Libération du 7 mars 2007. Le titre « Jean Baudrillard finit de décoder ». Baudrillard a eu une importance particulière pour moi parce que j'ai été marqué par son livre paru en 1991, « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu ». J'avais eu la chance de voir Baudrillard à l'émission de Bernard Pivot, à l'époque je crois que c'était encore apostrophe. Et j'avais à peine 19 ans, j'avais été marqué, j'avais été omnibulé, j'avais été renversé par le discours de Baudrillard qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là. Le fait de pouvoir intituler un livre « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu » avait quelque chose de surréaliste et à vrai dire, j'ignorais qu'un tel titre pouvait être envisagé et qui plus est, publié. J'avais envie d'en savoir plus. Un peu plus tard, dans une librairie accompagnée de ma mère, j'achetais le livre en question, à grande surprise de ma mère, qui se demandait, mais comment, pourquoi, enfin, elle était sûrement très contente, mais un peu surprise. Baudrillard n'aurait pas eu peut-être l'influence que j'aurais pu alors penser sur mes choix de carrière, quoique peut-être que oui. Mais un peu plus tard, j'ai fait des études en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. J'ai donc pu me reconnaître davantage dans certains intellectuels. Passons. Mais c'est curieux de voir qu'aujourd'hui, en 2007, je récupère un peu l'enseignement ou les propos du livre de Baudrillard pour faire un parallèle avec, bien sûr, la campagne électorale 2007 qui s'est achevée le 26 mars dernier. Donc, ce que je vous propose comme plan, parce que c'est toujours un peu rassurant d'en avoir un, c'est de suivre donc un peu le plan que Baudrillard avait pour La guerre du Golfe n'a pas eu lieu. En fait, avant d'être un livre, c'était paru justement dans le journal Libération, trois articles, La guerre du Golfe n'aura pas lieu, La guerre du Golfe a-t-elle vraiment eu lieu, et enfin, La guerre du Golfe n'a pas eu lieu. Donc, nous aurons ici une première période, cette campagne n'aura pas lieu. Une deuxième période, cette campagne a-t-elle vraiment lieu? Et enfin, une troisième période, la campagne électorale québécoise 2007 n'a pas eu lieu. Je me réserverai aussi, en bon québécois, la possibilité d'utiliser une courte prolongation. J'espère aussi pouvoir me permettre à chaque période une petite envolée, disons, lyrique, peut-être surréaliste, Parce que pendant ce mois de mars, je me suis permis une conversation quotidienne avec un arbre que je croise régulièrement pour aller travailler. Voilà pour la méthodologie. Plongeons donc dans cette première période que j'ai donc intitulée « Cette campagne n'aura pas lieu ». Bien sûr, je rapporte des propos qui m'ont été inspirés au début de ce mois de mars, mais je n'ai pas enregistré au début de ce mois. Peut-être aurais-je dû le faire parce que je réinterprète peut-être certains propos, mais soit, allons-y. J'ai été d'abord marqué, comme probablement beaucoup de Québécois, par l'abondance d'informations. J'ai été marqué aussi probablement par le recours aux sondages, comme si ces sondages avaient une importance capitale, comme si ces sondages allaient nous donner vraiment l'exemple à suivre ou à ne pas suivre. Bref, comme si on devait toujours forger son opinion suivant ces sondages. Peut-être une chose qui m'a marqué considérablement dans ce début du mois de mars fut une tempête. La tempête du 2 mars, si je suis les petites notes que je me suis données. J'ai bien aimé cette tempête. J'ai bien aimé cette tempête parce que cette tempête m'a rappelé peut-être à une évidence que mon pays n'était pas un pays, mais bien un hiver, et que la nature nous indique à l'occasion, quelle est la plus forte? Je ne me souviens plus exactement pourquoi j'ai eu besoin de l'écrire en ce début du mois de mars, mais je vais risquer une interprétation. C'est peut-être que j'ai senti dans cette journée que peu importe les choix que nous ferions, la nature, elle, l'emporterait toujours. Bref, il y a des signes autour de nous qui sont peut-être plus importants que nous, qui sont peut-être plus grands que nous, chose que j'ai l'impression parfois qu'on oublie. Peut-être est-ce ainsi pour ça que j'ai eu besoin de commencer cette discussion avec l'arbre que je trouve si majestueux et que je rencontre si souvent, toujours sur mon chemin. Un arbre que je prends quelques secondes pour vous décrire, immense, et il se situe dans un parc et je le soupçonne fortement d'avoir été un des seuls à survivre un peu à un terrain de baseball, à un parc pour enfants, à des infrastructures que l'on retrouve généralement dans des parcs. Mais cet arbre m'apparaît alors comme un survivant. J'ai donc tendance, pour toutes sortes de raisons, à l'admirer. Au départ, je me trouvais un peu, étrange. Je ne savais pas à quel point j'allais assumer ce dialogue, à quel point je pourrais partager l'envie d'entrer en contact avec un arbre. Mais aujourd'hui, j'assume. J'assume, entre autres, parce qu'il me semble que la conversation, entre guillemets, encore une fois, que j'ai pu entretenir tout au long du mois de mars avec cet arbre, est à certains égards plus intéressante que l'information que j'ai pu tirer des médias traditionnels. Au départ, j'ai eu envie peut-être de me demander qu'est-ce qu'un arbre comme celui-là aurait pu penser de cette campagne. Bien peu de choses, peut-être. Mais si on se laissait la possibilité de jouer le jeu, je crois qu'il aurait des choses à nous dire. Enfin, il est le prétexte pour dire certaines choses, pour me permettre peut-être de ventiler ou d'exprimer certaines frustrations. Et disons-le aussi, j'enviais peut-être cette position de l'arbre qui, quoi qu'il arrive, serait toujours au même poste à la fin de ce mois de mars, et n'aurait pas à se pencher sur cette campagne, sur l'avenir de la province, sur une série de questions de société. le lot, bien entendu, de citoyens québécois et qui plus est de sociologues et autres commentateurs. La première partie de ce mois de mars me laissait envisager une campagne intrigante. Et très rapidement, je me suis aperçu, comme bien d'autres, que cette campagne ne serait que bien peu révélatrice des questions de fond, des questions qui me semblent relever de, bref, disons-le vraiment directement, des vraies questions, mais urgentes, comme par exemple la pauvreté, la justice sociale et autres questions peu représentées dans cette campagne, la culture. Bref, plus on écoutait les médias, plus, surtout la télévision bien entendu, plus on avait envie de parler aux fleurs, parler aux arbres, parler aux gens qui n'étaient pas conviés au spectacle, pour prendre des termes peut-être plus près de Baudrillard ou de Guy Debord, comme les démunis, comme les personnes qui ne sont pas considérées comme des experts ou des spécialistes. Autre constatation importante de ce début de mois de mars, je l'ai noté le 8 mars, la presse, la couverture de la presse. J'ai hésité, bien sûr, à nommer le journal, mais il me semble important de relever le caractère biaisé de la couverture de plusieurs journalistes et surtout pendant certaines journées de la Une. La chose qui m'a peut-être davantage, pas surprise, non, ce serait exagéré, mais déçu, toute la tournure autour de cette histoire du candidat du PQ qui aurait nié ou non le génocide rwandais. Bref, on avait l'impression ici que la presse cherchait à sortir des cadavres du placard. Et je dois dire que ici, l'effet fut peut-être inverse. Si on cherchait à venir chercher mon vote et peut-être à me convaincre de certaines, disons, tares présentes dans un parti politique, ici, on obtenait exactement l'inverse de ce qui me semblait être l'intention. Bref, je n'ai pas envie d'en parler plus longtemps, mais je tenais à mentionner ce type d'information dont la presse n'a pas eu de monopole, bien entendu, mais cet exemple me semblait patent. Autour du 9 mars, je me suis demandé si, pour qui j'allais véritablement voter. Impossible encore d'y répondre. Par contre, pour une des rares fois, j'étais vraiment, 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 vraiment mêlé. Vraiment, je ne savais plus véritablement si j'allais assumer certaines choses ou si j'allais voter, disons-le encore une fois en guillemets, stratégique. Quel terme, mais bon, passons. Le débat des chefs, 13 mars. Mon Dieu. Quel spectacle, quelle désolation. Mais comme bien d'autres, j'y ai assisté par l'entremise de la télévision. Et je dois quand même dire que là aussi, un certain nombre de choses me sont apparues peut-être plus clairement. Mais aucun des trois chefs en question ne m'a semblé digne que je lui donne mon vote. Mais la chose qu'on doit en dire, par contre, c'est comment se fait-il que les deux candidats des petits partis, comme on les nomme communément, n'aient pas été conviés à cette fête, à cette vitrine. Bref, je n'ai pas de réponse, mais bien des hypothèses. Et je suis certain que vous en avez aussi. Il s'agit d'un problème qui m'apparaît important de régler dans une campagne ultérieure. Autour du 15 mars, je serais tenté de faire commencer cette deuxième période que j'ai intitulée « Cette campagne a-t-elle vraiment lieu? » Je me suis permis un décrochage. Comme plusieurs Québécois, j'imagine, ce décrochage était peut-être nécessaire pour garder un minimum de santé mentale. Hasard, j'ai reçu, peut-être l'avais-je reçu avant, une copie de Spirale où j'ai lu un article intéressant sur Hubert Aquin. Article paru, bien entendu, pour l'anniversaire ou souligner les 30 ans de la mort d'Hubert Aquin. J'ai relu certains textes et j'en suis venu à me demander, bien entendu, comme d'autres commentateurs, si Hubert Aquin n'avait pas senti l'impasse. J'imagine que je ne vous révèle rien d'extraordinaire, mais en cette mi-mars 2007, bon, je peux dire moi aussi que j'ai eu envie de décrocher complètement. Et dans ce sens-là, mes discussions avec l'arbre ont pris une tournure peut-être plus surréaliste, justement, où je me suis mis à penser que je pourrais moi-même, peut-être, devenir un arbre. Évidemment, l'image ici, ou l'idée étant que je pourrais avoir avantage à devenir cet arbre, dans l'idée que je m'en fais. Quelle est cette idée? L'idée d'être dans un état enfin débarrassé du poids du passé, enfin débarrassé des impasses, pour reprendre le terme d'Aquin, enfin débarrassé des limites de cette vie en société, des débats sans fin entre souverainistes, fédéralistes et autonomistes. Bref, me retrouver un peu balancé par le vent, traversé par les saisons, jouissant du moindre rayon de soleil, me nourrissant des bontés de la terre, laissant mes racines se prolonger dans le sol. Bref, sans pousser trop loin cette description de ce que peut être la vie d'un arbre vu par un homme, être un peu à l'extérieur du monde tout en y étant bien enraciné, mais me sentir un peu comme les arbres ou les branches de cet arbre au-dessus de tout. Je me suis permis un peu, pendant plusieurs jours, cette soupape, cette bouée de sauvetage. Ça m'a permis enfin peut-être de respirer, de me sentir plus libre, de me sentir moins concerné, de me sentir enfin peut-être dans un monde plus habitable, plus confortable, moins limité. Bref, tout ce travail imaginaire n'a pas duré longtemps. Parce que la vie en société a bientôt de nous ramener à la réalité. Un conte Diderot, un conte de téléphone, Un appel d'un ami qui nous demande pour qui on va voter. Le téléjournal, un peu par hasard, un soir d'insomnie. Bref, ce qui fait, bien entendu, ce qui constitue le quotidien et qui est en grande partie, bien entendu, constitué de petits phénomènes très terre à terre qui ne nous laissent pas longtemps le luxe de nous prendre pour un arbre. Troisième période, c'est donc, je relis ces notes, la campagne électorale québécoise 2007 n'a pas eu lieu. Je suis un peu victime ici du plan que je m'étais fixé, parce que j'ai décidé de suivre un peu l'exemple de Baudrillard. Bien sûr, cette campagne a eu lieu. Si je m'en tiens au plan, si j'ai voulu le retenir, c'est pour dire que la campagne électorale québécoise 2007 que j'aurais souhaité n'a pas eu lieu. On a bien peu parlé de pauvreté. On a bien peu parlé de culture. On a parlé beaucoup de boîtes à outils. Hein? On a beaucoup parlé de moyens économiques pour se doter, hein, des moyens de... Bref, de récupérer des points d'impôt ou de récupérer l'argent, la formule de péréquation, ici, ça, bref, les questions comptables. C'est peut-être important, mais, mon Dieu, pourquoi en sommes-nous venus à toujours, 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 toujours tout évaluer de ce point de vue? Et cette troisième période correspond bien entendu à cette désillusion par rapport à cette possibilité de devenir un arbre. Et là, je me permets d'être totalement surréaliste et de prendre la parole à la place de l'arbre. Peut-être que cet arbre aurait pu me répondre. Et j'ai besoin de cette réponse qui vient en fait de mon éducation, de mon héritage. Vous le comprendrez dans cette réponse. L'arbre en question aura tôt fait de me rappeler que cette campagne a eu lieu. Et s'il avait pu le faire au mois de mars, il m'aurait dit « cette campagne a bel et bien lieu ». Donc, en voulant devenir un arbre, l'arbre aurait pu me dire « Vous avez tout faux. Vous vous trompez sur la condition d'arbre. La description que vous faites n'existe pas. Laissez-moi vous expliquer. Vous n'avez fait qu'une projection. Je n'ai pas de conscience. Je n'ai aucune emprise sur ma vie. Il n'existe pas de solidarité entre arbres. Qui plus est, il n'existe aucune recherche de sens pour les arbres. Pas de possibilité de créer, à part ce qui est possible, des feuilles, des branches, des racines, etc., mais rien que nous ne connaissons pas. L'arbre ne peut donc pas vous servir de modèle, puisque son état ne convient pas à l'homme. L'arbre est beau, oui, mais dans le regard de l'homme. L'arbre est bien si l'homme est bien. Et l'arbre est bien si l'homme sait l'apprécier pour tout ce qu'il peut lui offrir. Rien d'autre. Donc, le conseil de cet arbre était finalement de me faire rendre compte du poids de mon héritage, de la chance de pouvoir interpréter les choses, de pouvoir dire des choses. De connaître aussi ma chance de pouvoir valoriser un arbre, d'en comprendre l'utilité, de respecter l'arbre, de le protéger si un tel pouvoir m'est dévolu. Bref, c'est grâce à moi, grâce à nous, qu'on peut le célébrer, qu'on peut le protéger, qu'on peut le mythifier, qu'on peut l'étudier. Bref, comme toute chose que l'on peut regarder, c'est à nous de valoriser ce qui nous entoure. Il suffit donc d'orienter notre regard, de prendre le temps de s'imbiber de l'extérieur, du dehors, pour reprendre le terme de cette série. Tout cela semble si simple, et pourtant, tout semble aujourd'hui converger pour rendre ces considérations compliquées, pour nous empêcher de rêver, pour nous empêcher de nous exprimer, pour nous empêcher d'être différents et de l'assumer. Bref, ce qui m'a choqué dans cette campagne, c'est que plus nous parlons, moins nous semblons dire quelque chose. J'aurais envie d'expliquer à tous ces candidats que nous gagnerions à écouter un peu plus les arbres, les rivières, les pauvres, les autochtones, les chats, les couchers de soleil, etc. Il ne me reste plus qu'une petite prolongation. Et dans cette prolongation, j'aimerais juste dire que j'ai été voté le 26 mars et que j'irai voter lors de la prochaine élection aussi, mais qu'entre-temps, je prendrai la parole lorsque je pourrai la prendre et que je continuerai à défendre les démunis, à défendre des visions du monde qui peuvent déranger à l'occasion et que c'est ce qui m'apparaît le plus précieux dans l'existence et que cela me semble fortement menacé aujourd'hui. Voilà, je tiens à mentionner aussi que ce mois de mars fut pour moi un mois extrêmement riche et que je continuerai à interpréter de la même façon tous les mois que j'aurai la chance de vivre d'ici la fin de ma vie parce que l'exercice enrichit ma vie et que j'ai envie de continuer à pouvoir dire mon opinion. Merci.